Trois petits points.
Trois petits points.
Trois petits points.
Trois petits points. Trois petits points.
Trois petits points.
Trois petits points.
Trois petits points est un podcast littéraire animé par Alix Lenne et Julie Mamoumani. Nous sommes ravis de reprendre le micro pour cette nouvelle série de podcasts dédiée à Chateaubriand. Oui, François-René de Chateaubriand, l'intellectuel des Lumières, précurseur du mouvement romantique, fin politique, auteur du 19e siècle, notamment des mémoires d'outre-tombe, du génie du christianisme, d'Atala. On sait moins que les femmes ont joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre de Chateaubriand. Il y a eu les amies fidèles, comme la première féministe, Claire de Duras, ou Germaine de Staël, sa femme Céleste, et ses innombrables maîtresses, dont la plus connue, Juliette Récamier. Ce sont ces femmes que nous allons découvrir dans nos podcasts en recevant des auteurs contemporains sensibles à la plume de Chateaubriand. Cette série est réalisée en partenariat avec la maison de Chateaubriand, la Vallée aux Loups et le département des Hauts-de-Seine.
Nous voici de retour pour un nouvel épisode de notre série sur les femmes et Chateaubriand. Jean-Paul Antoven nous fait le plaisir d'être avec nous pour parler de Pauline de Beaumont, dite l'Hirondelle. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, bonjour Alix.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Julie.
Alors Jean-Paul Antoven connaît la littérature française comme peu d'entre nous. Il est journaliste, éditeur et écrivain. Et votre dernier ouvrage, Ligne de vie, a été publié en 2022 chez Grasset.
Alors, oui, je n'ai rien à ajouter.
Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Pauline de Beaumont. Avant d'être une des nombreuses maîtresses de Chateaubriand, elle est d'abord une femme de lettres qui a tenu un salon littéraire à succès. Elle représente peut-être aussi l'une des histoires d'amour les plus tristes de François René.
Et alors, avant de revenir sur la relation entre l'enchanteur et son hirondelle, essayons de comprendre qui est Pauline de Beaumont, née de Montmorin, élevée dans un couvent. Elle est mariée très jeune et sa famille va être décimée pendant la Terreur. Elle connaît des soucis de santé très tôt et échappe à l'arrestation par sa maigreur et sa pâleur, c'est ça Jean-Paul ?
Oui, vous avez presque dit l'essentiel, parce que Pauline de Beaumont a un destin qui a l'air tragique, mais qui ne l'est pas, vous allez voir. Parce que, d'abord, elle est malade, elle est poitrinaire, et elle inaugure la grande famille des poitrinaires sans lesquelles la littérature romantique ne serait pas ce qu'elle est. Ça va jusqu'à la Dame aux Camélias, jusqu'à la Traviata, etc. Et elle a eu un passé, un début dans la vie absolument tragique, un mariage inutile qui a duré quelques mois, après quoi son père, qui était ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, a été guillotiné, toute sa famille a été guillotinée pour l'essentiel. Et puis, avec la Restauration, elle retrouve un peu de lustre et elle s'installe dans un hôtel près du Luxembourg où, évidemment, elle reçoit tout le monde. Et puis, elle a également un domaine en dehors de Paris à Savigny-sur-Orge. Ça s'appelle d'ailleurs, ça m'a toujours amusé, le domaine de Courterente. Et dans ce salon, on retrouve tous les beaux esprits de l'époque. On retrouve Louis de Fontane, qui est un grand patron de l'université et qui servira tous les régimes jusqu'à Bonaparte. On trouve le comte Molé, on trouve Ambroise Rendu, on trouve surtout Joubert. Joubert, qui est un moraliste, un grand écrivain sans œuvre, Chateaubriand rassemblera ses pensées et qui a toujours été d'emblée le protecteur de Chateaubriand. Et évidemment, Joubert, philosophe moraliste, est en adoration devant Pauline de Beaumont. D'ailleurs, tous ces hommes que je viens de nommer sont en adoration devant elle. Ils l'aiment, mais chastement. Alors, tous ces beaux esprits l'adorent. Ils se donnent des petits noms, Pauline et l'Hirondelle. Il y a Fontane qui est le sanglier et il y a Chateaubriand qui est le chat. Voilà comment ça se passe. Cela dit, vous avez dit tout à l'heure une histoire d'amour assez triste. Et je pense exactement le contraire.
Ah ben.
Cette Pauline de Beaumont, parce que Chateaubriand, il n'aime pas l'amour. Il aime que le souvenir de l'amour. Très important de comprendre ça. Il aime l'amour qui fuit, qui s'en va, qui disparaît. Alors, quand il tombe amoureux de Pauline, c'est l'idéal. Il sait qu'elle n'en a pas pour longtemps. Par conséquent, c'est d'emblée, depuis le début, vous savez, dans les mémoires d'Outre-Tombe, il parle d'un personnage qu'il invente dans sa jeunesse à Combourg. Il invente le personnage de la sylphide. La sylphide...
Personnage idéal.
Oui, c'est une femme qui n'existe pas, mais qui les contient toutes. Et c'est parfait, parce qu'elle est évanescente. Il est comme ça, Chateaubriand. L'amour, d'une manière générale, et surtout chez Chateaubriand, c'est pas le fait d'aimer, c'est le fait d'aimer l'amour qu'on vous porte. C'est toujours du narcissisme, l'amour, vous comprenez? Et Chateaubriand est comblé avec Pauline, parce que elle défaille, elle lui permet d'aimer comme il aimait aimer. J'ai trouvé un petit passage, si vous permettez que je vous le lise, de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve disait « Ce que voulait Monsieur de Chateaubriand dans l'amour, c'était moins l'affection de telle ou telle femme en particulier que l'occasion du trouble et du rêve. C'était moins la personne qu'il cherchait que le regret, le souvenir et le songe éternel. » Donc Pauline de Montmorin, qui revient à la vie, qui est tuberculeuse, va finir par retrouver Chateaubriand, qui déjà la trompe avec Delphine de Sabran. Enfin, la trompe, ça ne veut rien dire. Il est passé comme un papillon va d'une fleur à l'autre. Mais quand elle arrive à Rome, là, Chateaubriand est quand même un peu obligé. Elle va lui faire croire qu'elle vivra. Il va lui faire croire qu'il l'aimera. Donc, c'est une duperie magnifique qui est une des pierres d'angle de la mythologie romantique de l'amour. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors, à partir de là, évidemment, Madame de Duras...
Jean-Paul, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui charme Chateaubriand chez l'Hirondelle? C'est une femme qui est quand même résiliente, vu ce qu'elle a vécu en début de vie. Est-ce que c'est ça qui le charme? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans sa personnalité?
Non, j'insiste sur le fait que ce qui le charme, d'abord, c'est une grande dame. Elle devait, quand on lit le portrait qu'il fait d'elle dans les Mémoires d'Outre-Tombe, Madame de Beaumont, plutôt mal que bien de figure, plutôt mal que bien de figure, quand même, c'est insensé.
Son d'écrire visage ça était sur son... amaigri et pâle.
Voilà. Vous savez, pour qu'un amour fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut une transgression qui rassemble les deux amants. La transgression, elle est majeure, puisque Chateaubriand est déjà marié avec Céleste. Elle est toujours mariée, malgré tout, avec monsieur le comte de Beaumont. Il faut une transgression. Deuxièmement, il faut avoir les mêmes passions. Elle aime la littérature, lui aussi. Elle travaille avec lui, elle prépare ses manuscrits, elle les recopie. Et par conséquent, si vous voulez, cet amour-là va convenir complètement à Chateaubriand.
Il y a un magnifique passage sur Pauline dans les Mémoires d'Outre-Tombe.
Madame de Beaumont, plutôt mâle que bien de figure, est fort ressemblante dans un portrait fait par Madame Lebrun. Son visage était amaigri et pâle. Ses yeux, coupés en amande, auraient peut-être jeté trop d'éclat si une suavité extraordinaire n'eût éteint à demi ses regards en les faisant briller languissamment, comme un rayon de lumière s'adoucit en traversant le cristal de l'eau. Son caractère avait une sorte de roideur et d'impatience qui tenait à la force de ses sentiments et au mal intérieur qu'elle éprouvait. Âme élevée, courage grand, elle était née pour le monde d'où son esprit s'était retiré par choix et malheur. Mais quand une voix amie appelait au dehors cette intelligence solitaire, elle venait et vous disait quelques paroles du ciel.
Madame de Beaumont dit que Chateaubriand jouait du clavecin sur toutes les fibres de son âme. Et puis Chateaubriand avait un génie. Il adorait qu'on l'écoute. Il pleurait lui-même des belles phrases qu'il prononçait.
Pauline qui dit d'ailleurs « Il y a là une sorte de miracle. Le secret de l'enchanteur est de s'enchanter lui-même. Il vous fait fondre en larmes et pleure lui-même. »
Voilà, exactement. C'est magnifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, on ne voit dans cette affaire de passion physique. Chateaubriand est un flirteur, si je puis dire. Je crois savoir que dans ses maîtresses, et surtout avec Madame Récamier, bien sûr, puisqu'il y avait des pamphlets qui circulaient à l'époque disant que Madame Récamier ne pouvait recevoir ce que le vicomte ne pouvait lui donner. Et c'est un flirteur. Et par conséquent, il y a un mot très célèbre, j'y pense à l'instant, on dit que Chateaubriand était un épicurien avec une âme catholique. Et l'affaire est très intéressante parce que au moment où il rencontre Pauline, elle le cueille au moment où il n'est pas encore glorieux, mais où il va le devenir.
Avec le génie du christianisme.
Voilà. C'est-à-dire que Atala est le génie du christianisme. C'est-à-dire que c'est le moment clé. C'est pas intéressant d'aimer au moment où les êtres sont à leur zénith. C'est pas intéressant de les aimer quand ils ne sont rien. Mais c'est passionnant de les aimer au moment où la vie les transforme. Or, Chateaubriand, qui vit dans le péché et l'adultère devient le chantre du catholicisme.
Oui, c'est vraiment un paradoxe que la relation s'est allée au grand jour. Oui.
C'est pas un paradoxe, c'est Chateaubriand. Dieu sait que j'admire Chateaubriand, moins que d'autres ne l'admirent, mais c'est un monument sublime d'hypocrisie et de génie. Voilà, avoir le génie de l'hypocrisie, ce n'est pas rien.
Et puis, Pauline devient très proche de Lucille, qui est la sœur adorée de Chateaubriand. Ça, c'est un point important.
Oui, c'est important, effectivement. Chateaubriand a toute sa vie recherché sa sœur dans les femmes qu'il a aimées. Chez toutes, sauf chez Nathalie de Noailles, je crois, qui était vraiment une femme distincte. Et un psychanalyste pourrait se poser sur cette affaire-là et poser un regard particulier. Il y avait de l'inceste virtuel, j'ai dit bien virtuel, entre Chateaubriand et Lucille. Et effectivement, tout le monde avait envie d'être l'ami de Pauline de Beaumont, parce qu'elle était adorable. Et puis surtout, on savait que ça n'allait pas durer très longtemps. Il y avait un problème quand elle était à Rome, d'ailleurs. Les gens ne savaient pas comment il fallait l'appeler. On ne pouvait pas l'appeler Madame de Beaumont, puisque Monsieur de Beaumont était perdu dans la nuit de la vie. On ne pouvait pas l'appeler Madame de Montmorin, puisque ça n'avait pas plus de sens, elle avait été mariée. Donc, il fallait, c'était un sport à Rome, trouver des périphrases pour la nommer. Et la plus durable, c'était « Comment va notre cher ami poitrinaire ?» On ne savait pas comment la nommer.
Et l'hirondelle, pourquoi l'hirondelle ?
Pourquoi pas ? C'est l'image même de la grâce printanière. C'est l'oiseau qui fait le printemps, comme on dit. Donc, c'est gracieux, c'est mignon, mais il n'y a pas de nécessité. Encore moins de nécessité à nommer Chateaubriand le chat. Il ressemble à un tigre, si on veut, à un éléphant, mais un animal d'Amérique.
Alors, comment se retrouve-t-il pour cette ultime étape à Rome ? On sait que Chateaubriand est nommé en 1803 premier secrétaire de légation par Napoléon. Il part y habiter, mais pourquoi elle le retrouve ?
Alors, c'est très intéressant. D'abord, il y a la version de la réalité, la version des mémoires d'outre-tombe. Dans la version des mémoires d'outre-tombe, il dit que le climat sec de l'Italie romaine sera très propice aux bronches de Madame de Beaumont. Donc c'est pour cette raison qu'il accepte, qu'il se sacrifie pour ce poste-là. En vérité, tous les historiens savent qu'il a intrigué comme personne pour obtenir ce poste-là, qui était un poste assez secondaire d'ailleurs, mais il pensait qu'avec son génie du verbe, il allait vite éclipser le cardinal Fesch, qui était le beau-frère de Napoléon. Donc, il était mal tombé. Évidemment, le cardinal Fesch l'écarte, l'exile dans un petit bureau où il accorde des visas consulaires ou des choses négligeables. Et Pauline sent que ses jours sont comptés. Chateaubriand s'est installé dans d'autres amours à ce moment-là. Mais Pauline sent que ses jours sont comptés et tant qu'à faire, autant vivre pleinement le temps qu'il lui reste. Donc, elle arrive à Rome, ça ne va pas durer très longtemps, et ça donnera lieu à une agonie qui a été écrite sublimement dans les mémoires d'outre-tombe. Est-ce que vous en connaissez le texte ? Elle se meurt, et puis, à ce moment-là, Chateaubriand lui fait élever un cénotaphe à ses frais. Il est tout sauf avare, Chateaubriand. Jamais. Une générosité, il dépense tout l'argent qu'il ne possède pas. Et sur le cénotaphe, il est fait écrire « Après avoir vu périr toute sa famille, son père, sa mère, ses deux frères et sa sœur, Pauline de Montmorin, consumée d'une maladie de langueur, est venue mourir sur cette terre étrangère, François-René de Chateaubriand a élevé ce monument à sa mémoire. » Et c'est vrai que c'est bouleversant d'aller voir ce monument à Rome parce que, ben voilà, c'est tout ce que Chateaubriand voulait conserver de cet amour, l'inscription dans le marbre d'une belle phrase, une belle période classique. Et voilà ce qui reste de Pauline. Elle est morte dans ses bras avec la fameuse phrase réelle, apocryphe, nul ne sait. En tout cas, Jean d'Ormesson le croit, et Chateaubriand l'affirme, elle meurt dans ses bras en disant « Mon dernier rêve sera pour vous ». Ça a été le début des grandes amours romantiques, que pour ma part, je place bien après les grandes amours romanesques. Ça n'a rien à voir. Là c'est, on est dans le fusionnel, dans l'âme, on est dans la nouvelle Héloïse, on est chez Rousseau, on est dans des torrents de larmes. C'est un peu fake, comme on dirait aujourd'hui. Hein, voilà.
C'est pour écrire, peut-être. Il a besoin de ça pour écrire.
Peut-être. Mais du coup, est-ce que l'écriture rend un son de vérité? Je ne sais pas.
On peut lire le passage sur la mort de Pauline dans les Mémoires d'Outre-Tombe.
Oui, ça c'est donc la version officielle, telle qu'elle est gravée dans le marbre des Mémoires d'Outre-Tombe. Nous la soutenions dans nos bras, moi, le médecin et la garde. Une de mes mains se trouvait appuyée sur son corps qui touchait à ses légers ossements. Il palpitait avec rapidité, comme une montre qui dévide sa chaîne brisée. Nous inclinâmes sur son oreiller la femme arrivée au repos. Elle pencha la tête, quelques boucles de ses cheveux déroulées tombaient sur son front, ses yeux étaient fermés, la nuit éternelle était descendue, tout était fini. Bon, c'est très beau. Je suis très surpris quand même par l'usage de l'imparfait.
Pourquoi?
Il aurait dû mettre du passé simple.
Ah oui, c'est vrai. Peut-être une version.
D'ailleurs, il commence, parfois il le cède. Nous inclinâmes sur son oreille, quelques boucles de ses cheveux tombaient sur son front. Tombèrent sur son front, ses yeux se fermèrent au lieu de été. Enfin, moi, il
non,
me
c'est
sent,
l'éditeur puisque, qui nous parle.
Puisque, c'est ça. Puisque le passé simple dit l'événement auquel on assiste à ce moment précis. Et l'imparfait dit quelque chose qui dure.
Éternel.
Voilà.
Jean-Paul, là, c'est plus du romantisme, c'est de la tragédie quand même.
Oui, mais la mort est présente dans tous les grands textes romantiques. C'est un des acteurs principaux de la mythologie romantique, la mort. Depuis Bernardin de Saint-Pierre, la nouvelle Héloïse, on meurt tout le temps dans les grandes amours romantiques. On commence à mourir un peu moins avec Musset, mais quand même, la tuberculose veille. On ne peut pas continuer à vivre. C'est un état d'esprit. Il y a un très grand livre de René Girard qui s'appelle « Vérité romanesque et mensonges romantiques », dans lequel René Girard analyse cette façon un peu posée ou poseuse d'aimer et de se laisser aimer. Mais bon, ça fait partie de notre culture. Aujourd'hui encore, on adore le mélodrame où Margot va mourir.
Et aussi, on peut dire que « Mon dernier rêve sera pour vous » est le titre du livre choisi par Jean d'Ormesson.
Oui, bien sûr, il a choisi ce titre qui est vraiment magnifique, il faut dire. Alors, ça veut dire quoi, quand on s'interroge? Ça veut dire que elle confond la mort et le sommeil? Ça veut dire qu'elle va encore, elle va simplement dormir? C'est très bizarre, non, de penser qu'on rêve à l'intérieur de la mort, ou alors ça ne peut pas être le rêve qu'elle fait juste avant de mourir, puisqu'elle ne dort pas à ce moment-là. Bref, c'est une phrase légendaire, et comme Jean d'Ormesson a eu raison de la choisir comme titre.
C'est un peu comme ça qu'elle va rester célèbre longtemps aussi au XXIe siècle pour nous.
C'est le souvenir qu'elle laisse. Une dernière question. Chateaubriand est très marqué par le décès de Pauline, mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est le début de la gloire pour lui. Donc lui,
oui,
il passe
oui,
vite à autre chose.
Très vite. Vous savez, le génie du christianisme a été le premier best-seller de l'édition en France. Ça a été phénoménal. Il y avait un timing extraordinaire, un peu comme, si je puis dire, comme pour le mage du Kremlin, qui sort au moment où Poutine envahit l'Ukraine. Donc, un timing incroyable. Il y a la restauration, il y a le retour du catholicisme avec des Bourbons qui n'ont rien oublié ni rien appris. Et tout d'un coup, le catholicisme qui veut se venger des prêtres réfractaires, de l'appropriation des biens de l'Église, etc. Le catholicisme devient très tendance d'État. Et Chateaubriand publie son livre à ce moment-là. C'est génial. Comme je vous dis, c'était un épicurien avec l'imagination catholique. Pour sa propre vie, il n'a ni de près ni de loin, il ne s'est conduit comme un catholique respectueux des usages. Mais le livre devient un phénomène d'édition qui le lance définitivement. C'est l'allumage de la fusée Chateaubriand qui ne va plus s'éteindre.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul.
Merci
C'était
à vous.
Passionnant.
Merci, Jean-Paul.
Merci.
Voilà, le podcast Les Femmes et Chateaubriand, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes audio pour écouter nos anciens ou prochains épisodes.